Chapitre 22. Chloé, 17 juillet 2018. C'est avec des questions additionnelles en tête que Luther et moi montons dans le ferry ce matin, à Battery Park. La recherche lancée par Luther à partir de la photo du bras de ma grand-mère a ouvert tout un tas d'images. Celles de Central Park, mais aussi de nombreuses autres, identiques. Le tatouage de ma grand-mère accompagné de l'adresse mail est la signature de Jonathan Townsend, un street artiste vivant à Isla Morada, en Floride, mais exerçant son art un peu partout dans le monde. Il est à mon sens impossible qu'il s'agisse d'une coïncidence, le dessin étant très exactement identique. L'hypothèse la plus plausible, celle qui arrive dès que l'on réfléchit à cette question, est que ce tatouage que nous pensions unique soit en réalité bien plus répandu que nous le pensions. Ce Jonathan pourrait avoir un ancêtre Lizzie, ou même être tombé sur des photos de tatouages qui l'auraient inspiré. Tout est envisageable. Mais tout de même, je sais bien ce qu'il y avait dans les yeux de Luther hier. Cette idée absurde qui a fait irruption dans nos esprits simultanément. Cette possibilité, probablement sans fondement, complètement folle sûrement. Si folle qu'aucun de nous n'a osé la formuler à voix haute. Il est tout juste 9h lorsque le bateau passe devant la Statue de la Liberté. Je ne peux réprimer un frisson, en songeant aux millions d'immigrants qui l'ont aperçu, parfois perdu dans le brouillard, parfois aussi net qu'aujourd'hui. À quoi pensaient-ils? Laissaient-ils éclater leur joie d'être si proche du but? Une chose est certaine, tous étaient remplis d'espoir. Les conditions de vie des nouveaux immigrants étaient bien loin du monde idéal mille fois imaginé. Mais cela, ils ne le savaient pas encore, au moment de saluer Lady Liberty. Nous accostons à Ellis Island quelques minutes plus tard, entourés de centaines de touristes venus explorer le Musée national de l'immigration. Le bâtiment principal ressemble à un château rouge et blanc de style Renaissance, grandiose et écrasant. L'ensemble architectural, immense, a été pensé pour la réalisation de procédures administratives et médicales. Une dialectique du transit et de l'attente, renforcée par l'insularité du lieu. Ici, impossible de s'échapper vers l'Amérique. Seuls ceux qui répondaient à tous les critères étaient autorisés à entrer. Les autres étaient renvoyés en Europe, sans avoir jamais foulé le continent. Nous avons rendez-vous dans un peu plus d'une heure avec le bibliothécaire du Musée de l'immigration, personnage apparemment considéré comme un puits de science et d'anecdotes sur cette île à laquelle il a consacré sa vie. En attendant cette entrevue, Luther sirote un ristretto en terrasse de l'Ellis Island Café, tout en passant quelques coups de fil. Il a pensé que je préférerais découvrir les lieux seul. Il avait raison. Les photos qui jalonnent le parcours me bouleversent. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ma propre famille à la place de tous ces anonymes. De chercher le regard de Gina dans les yeux tremblants d'appréhension de chaque petite fille. Sur ces clichés en noir et blanc, femmes, hommes, enfants, têtes hautes et regards dignes, ont revêtu leurs plus beaux habits. Ils tentent d'apparaître sous leurs meilleurs jours, de faire bonne impression, malgré la peur des uniformes militaires, la détresse d'être séparés les uns des autres, la terreur d'être renvoyés chez eux. Tous sont des passagers de troisième classe. Ceux de première et seconde recevaient à bord du bateau les visites du médecin, de l'employé de l'administration fédérale, puis étaient conduits à Manhattan. Puisqu'ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins, l'État ne prenait pas de risque en les accueillant. Les plus pauvres devaient passer par Ellis et se soumettre aux heures d'attente, au parcours labyrinthique, aux étiquettes autour du cou, aux médecins scrutant les rangs, repérant en un coup d'œil les cas suspects, puis observant les yeux, la bouche, et traçant sur le dos des malades des lettres à la craie, les condamnant de manière presque certaine à un retour au pays. Est-ce pour les personnes trop âgées? E pour les malades des yeux? L pour les boiteux? C pour les tuberculeux? X pour les malades mentaux? Tout dans ces lieux appelle au recueillement. Les salles gigantesques sont vides. Je les imagine grouillant de monde, bruissant de cris de bébés, de conversations inquiètes tenues dans des dizaines de langues et dialectes. Et alors que mes talons claquent sur le sol de l'impressionnante salle des enregistrements, ornée d'un drapeau américain haut de 3 mètres, je suis gagnée par l'émotion. J'ai l'impression de ressentir la présence de ces millions de personnes passées là avant moi. Je m'assieds sur un banc, bascule la tête en arrière pour observer la géométrie parfaite du plafond et le lustre de verre majestueux. Puis je ferme les yeux. Et tout à coup, au beau milieu de ce lieu chargé d'histoire, l'image qui envahit mon cerveau est une image de futur et de vie. Mon fils me regarde. Il me sourit. Je rouvre les yeux immédiatement, me remets en mouvement. Il est bientôt l'heure de notre rendez-vous, et mon fils n'a rien à faire ici. Ce n'est qu'en le formulant que je me rends compte que j'ai pensé à lui, en utilisant ce petit mot si simple et pourtant lourd de sens. J'ai dit « mon fils ». 2 heures plus tard, nous sommes de nouveau sur le ferry, silencieux. Comme moi, Luther a besoin de digérer la richesse des échanges avec le bibliothécaire d'Ellis Island, Arthur Jeffries. Passionné, passionnant, véritable mémoire vivante, Arthur Jeffries porte sur son visage l'ensemble des joies et des peines de son île. Il a répondu à toutes nos questions en un temps record, et je crois pouvoir dire qu'il nous a scotchés pour un bon bout de temps. Il nous a d'abord permis d'accéder à la retranscription de l'audition « Special Inquiry » de mon arrière-grand-père Angelo, par les officiers de l'immigration assistés d'un médecin. Il est d'abord reproché à Angelo de ne savoir ni lire ni écrire. Puis le médecin affirme que son boitement l'empêchera de subvenir aux besoins de sa famille. Angelo a beau assurer être parfaitement capable de travail de force, cela ne changera rien. Par ailleurs, c'est au cours de cette audition que les décès de sa femme et son fils lui sont annoncés. On lui explique l'évolution de la varicelle en une infection pulmonaire foudroyante. Le rapport fait état de hurlements, de pleurs, puis Angelo incrimine l'hôpital, accuse les médecins d'Ellis d'assassinat. Sa femme et son fils n'avaient rien d'autre qu'une varicelle. Il veut les voir. On le lui refuse. Il devient menaçant, puis il s'effondre. Et les 3 lettres apparaissent. LPC. Likely to become a public charge. Susceptible de devenir une charge pour l'État. Autrement dit, un poids mort. Sans avenir. Sans espoir. Évidemment, tout cela m'a profondément remué. Cela a permis de clarifier les conditions d'expulsion de ma famille. Mais nous n'avons rien appris de très nouveau. Et puis, comme souvent, l'inattendu a surgi de ce qui n'était pas écrit. Arthur Jeffries nous a expliqué que les registres de l'hôpital ont été perdus ou détruits. À part quelques dossiers épars, rien n'a été retrouvé. Concernant nos recherches, il est impossible d'accéder à un quelconque document d'hospitalisation, car il n'y en a pas. Nous avons remercié chaleureusement notre interlocuteur. Notre déception était immense, bien sûr, mais nous n'avions plus rien à faire sur cette île. Alors nous nous sommes dirigés vers la sortie. Et soudain, une idée m'a traversé l'esprit. L'idée de la dernière chance. Si nous ne pouvons pas retrouver les dossiers médicaux de Pasqualina et Francesco, peut-être pouvons-nous accéder à la liste des personnes employées à l'hôpital lors de leur séjour? Et en particulier, à la liste du personnel affecté aux maladies virales? Le vieil homme a acquiescé. Ses yeux se sont illuminés. Lui aussi avait compris que la réponse serait peut-être là. Il nous a guidés dans un nouveau dédale de dossiers, puis il a trouvé. J'ai parcouru la liste des salariés de l'hôpital de l'époque, et mes yeux se sont fixés sur un infirmier au patronyme familier, Townsend. Luther a tout de suite compris ce qui venait d'attirer mon attention. Il m'a lancé des regards remplis d'espoir. J'ai demandé à Arthur Jeffries s'il avait d'autres informations sur cet homme. Il a tapoté sur son clavier, puis dirigé l'écran vers nous. L'infirmier a travaillé 5 ans à l'hôpital d'Ellis Island, mais il a démissionné 3 jours après le décès de Pasqualina et Francesco. Luther s'est connecté au service d'état civil depuis l'ordinateur d'Arthur Jeffries. Il m'a regardé avec des yeux ronds. J'ai lu les lignes que Luther désignait sur l'écran et j'ai senti s'ouvrir un immense gouffre. Mon Dieu, cet homme a eu un fils. Dean Townsend, naît le jour du décès de Francesco. Et un petit-fils, prénommé Jonathan.